favorite SBS music station is here.
SBS Pop Euro.
Filled with Eurovision hits non-stop.
You want more?
The hits you know and the hits you'll want to know.
On DAB Radio, online,
the SBS audio app
and SBS On Demand.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, deuxième partie d'une mini-série consacrée à l'histoire du programme Vacances-Travail. Après en avoir vu les origines, en 1975, on s'intéresse dans celui-ci à un tournant intervenu 30 ans plus tard et qui, d'un programme considéré à l'origine comme un moyen de favoriser les échanges culturels, on a fait du programme Vacances-Travail un moyen d'assurer un certain nombre de besoins en main-d'œuvre en Australie, un tournant économique qui ne va pas sans quelques difficultés. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Romain Fati. Alors, c'est très différent effectivement de ce que c'est devenu aujourd'hui parce que le visa vacances-travail, ça semble répondre en particulier à un besoin très précis de l'Australie qui est d'apporter de la main-d'œuvre dans les régions les plus reculées du pays, celles où c'est difficile déjà il n'y a pas grand monde dans ces coins-là. Et c'est difficile de garder les jeunes sur place parce qu'il y a, j'imagine, au final assez peu de perspectives. Et voilà. Mais en fait, cette histoire, je pense à ça parce que ça a l'air d'être l'obsession de quasiment tous les jeunes backpackers, qu'ils soient français ou d'autres, c'est de faire, comme ils disent, faire leur jour de ferme. C'est l'une des conditions, effectivement, pour rester une deuxième année en Australie. Il faut, au cours de la première, d'avoir travaillé l'équivalent peu ou prou de 3 mois, 88 jours pour être précis, dans une ferme ou en tout cas dans une zone très isolée du pays. Mais ça, pourtant, cette obligation, elle n'arrive que en 2005. Et elle est devenue, en tout cas de mon point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'est devenu central dans cette histoire de visa vacances-travail. C'est, on fait venir des jeunes du monde entier pour, en gros, ramasser nos fruits et nos légumes parce que les Australiens, il y en a pas assez qui sont disposés à le faire, quoi.
Complètement. C'est marrant parce que au tout début, hein, en 75-76, il y a à peu près 2000 visas vacances-travail. Alors aujourd'hui, on est à hauteur 230, 240, 250 000, ça dépend des années. Donc c'est une politique à la fois touristique et économique qui a vraiment changé parce que ce qui la définissait dans les années 70, les échanges culturels, est devenu en réalité une définition économique, c'est-à-dire comment on peut faire bénéficier à la fois notre industrie du tourisme et certaines branches de l'économie qui sont sous tension. Et à partir des années 90, le mot backpacker est utilisé pour working holiday, c'est-à-dire que les touristes qui sont dans des backpackers sont identifiés comme généralement étant des personnes qui ont ce visa vacances-travail. Et donc, il s'opère une espèce de conflation entre l'ambition initiale, qui est le tourisme, les échanges, la découverte, et le fait qu'en fait, ces personnes-là vont travailler. Et le gouvernement s'en rend compte. Et il s'en rend compte et il identifie ça comme un moyen, un, d'augmenter les rentrées d'argent, et deux, de répondre à des problématiques locales d'emploi. Parce que l'Australie est immense et vous avez des saisons qui sont différentes suivant que vous êtes au sud, au centre ou au nord de l'Australie. Et en réalité, vous pouvez suivre les saisons de travail, un peu comme en France par exemple, vous pouvez aller faire les vendanges, puis entamer la saison pour le ski, puis après passer sur de l'estival en Côte d'Azur ou en Corse, voilà. Et donc vous faites 8 mois de travail en suivant les saisons dans les régions. Ça, vous pouvez le faire en Australie également. Et il y a de nombreux endroits où en fait vous allez vous retrouver avec des quantités de mangue ou de tomates ou d'avocats qui ne peuvent pas être ramassés par les Australiens qui sont sur place. Il y en a pas assez, ou alors c'est trop dur. Le prix n'est pas assez intéressant. La rémunération du travail. Et donc, on voit à mesure des années 90, les gouvernements produisent des rapports là-dessus, et surtout au début des années 2000 avec le gouvernement Howard, ils voient un réel intérêt économique, c'est-à-dire que ça permet d'envoyer des touristes hors de Sydney ou de Melbourne, et par ailleurs, donc de faire tourner l'économie locale, puisque ces gens-là, il faut bien qu'ils s'habillent, qu'ils mangent, qu'ils vivent quelque part, en faisant découvrir des endroits un peu plus reculés mais sympas, Bundaberg, etc., dans le Queensland, tout en répondant à des demandes locales de main-d'œuvre. Et donc aujourd'hui encore, et plus que jamais d'ailleurs, surtout depuis la pandémie de Covid, les visas vacances-travail sont vus comme une manne pour le gouvernement, dans la mesure où ce sont des jeunes qui ne vont pas rester, généralement, et qui ne sont pas là pour poser des problèmes, qui sont aussi sélectionnés parce qu'il n'y a qu'une cinquantaine de pays au total qui peut utiliser les deux visas vacances-travail que l'Australie propose. Donc il y a déjà une présélection avec des critères, avoir un peu d'argent sur son compte, etc. Et par ailleurs, qui vont travailler et donc avoir un impôt à la source, qui est le cas en Australie. Donc c'est des rentrées de revenus, et en parallèle, ça fait tourner l'économie, surtout dans les fermes, dans tout ce qui est horticulture. Et voilà, c'est un assemblage qui tourne bien, parce que, si vous voulez, c'est gagnant-gagnant pour les Australiens.
Alors, effectivement, ça permet effectivement de faire tourner toutes ces exploitations agricoles avec de la main-d'œuvre étrangère, jeune, peut-être facilement malléable, puisqu'elle n'est pas originaire du pays et peut-être qu'elle connaît mal ses droits en matière de travail, on va dire. Et puis, il y a donc cette carotte de pouvoir rester une deuxième année. Alors, après avoir regardé les statistiques officielles, en fait, j'étais assez surpris au final la part des gens qui restent une deuxième, voire une troisième année, on y reviendra, et au final assez faible par rapport aux premiers entrants, on va dire, qui passent juste un an en Australie. Mais voilà, on va dire qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui semblent être bien au courant que pour beaucoup de ces jeunes, c'est indispensable de travailler au moins 3 mois dans des fermes pour pouvoir rester un peu plus longtemps et peut-être faire autre chose, peut-être un métier un peu moins pénible. Et il y a de très nombreux témoignages d'abus divers et variés de jeunes qui se sont fait vraiment exploiter, voire qui se sont fait carrément arnaquer. Par exemple, on vous paye à la tâche plutôt qu'à l'heure, on vous paye mais pour dormir dans un dortoir qui a pas dû voir un balai depuis 30 ans, faut payer le prix d'une chambre d'hôtel à Sydney, la bouffe, la fourniture d'un ventilateur, enfin bref, au final il y a vraiment de la captation de quasiment tous les revenus que ces jeunes espèrent obtenir en allant travailler dans ces fermes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ça, de cet aspect exploitation de ces jeunes avec cette carotte 88 jours?
Déjà, je vais qualifier ça en disant que ce sont des expériences minoritaires, donc les auditeurs qui seraient intéressés par un visa vacances-travail ne pensez pas qu'il s'agit d'un contrat d'esclavage. Il y a des cas d'école qui sont vraiment très mauvais, mais de manière générale, ça se passe plutôt très bien. Là, la situation à laquelle vous référez, c'est effectivement la plupart des personnes qui utilisent un visa vacances-travail restent un an, travaillent un tout petit peu, et pour vous donner un chiffre, 240 000 cette année correspondent à peu près 16 000 emplois à plein temps. Donc on voit très bien qu'il ne s'agit pas de travailler à plein temps, ça va être quelques heures par-ci par-là, ou alors un mois intensément, et après 6 mois de vacances. Donc la plupart des gens utilisent le visa vacances-travail pour faire ça, payer leur van, payer leur tour de l'Australie et travailler quand ils en ont besoin pour remplir un peu les caisses et continuer leur route. Certains, en revanche, ont une perspective d'intégration en Australie. Elle est plus rare, ils ont envie de rester, mais il y a des études qui ont prouvé, et d'ailleurs je recommande un article qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle « The Tourism Migration Nexus, Working Holiday Visa Politics and Repurposing Tourists as Labor » de Kaya Barry et Raffaello Azeredo, qui explique qu'en réalité, les personnes qui vont essayer d'allonger leur visa, généralement essayent aussi plus tard de rester en Australie et de devenir des résidents permanent. Ce sont des cas minoritaires, mais ce sont généralement ces cas-là qui sont le plus exposés à devoir accepter des conditions parfois pas très claires, parce que ils ont vraiment envie de rester en Australie à tout prix. Et vous avez mentionné ces 88 jours. Si vous voulez pouvoir rester une seconde année en Australie avec le visa vacances-travail, il faut effectivement pouvoir mettre en évidence que vous avez rendu un service à l'économie australienne. Et en l'occurrence, le gouvernement a décidé que c'est travailler dans certaines industries, les fermes, mais aussi le BTP, par exemple, et dans certains endroits. où ils vont avoir du mal à recruter. Donc généralement les régions, hein, enfin ce qu'ils appellent region, mais regional, l'arrière-pays si vous voulez. Et donc le journal The Guardian avait dénoncé ça en 2019. Depuis, il y a eu une certaine législation qui a été mise en place pour que certains producteurs règlent à l'heure plutôt qu'à la tâche, parce qu'effectivement, il y a eu des cas d'exploitation. D'exploitation en termes de travail, mais aussi des situations sanitaires exécrables, des situations de violence physique, sexuelle, verbale, qui ont été dénoncées et que le gouvernement s'est finalement empressé d'essayer de résoudre parce que c'est un programme dont il a besoin. Parce que ça rapporte plus de 3 milliards à l'économie australienne. Parce qu'en réalité, l'argent qui est gagné sur place, certains vont pouvoir l'économiser et rentrer avec, mais de manière générale, il va être dépensé sur place pour sortir, visiter, faire la fête, enfin tout ce qu'un touriste pourrait faire. Et donc, tout de suite, quand ces affaires, ce scandale a eu lieu, je m'en souviens parce que ça avait été très médiatisé par les Australiens à l'époque, non seulement parce que ça faisait tort au pays en termes d'image, mais aussi parce que c'était perçu comme une attitude non australienne, un-australian, c'est un terme qu'ils utilisent souvent qui se traduit mal, c'est-à-dire que les Australiens ont une certaine idée de leur droit du travail et que même si ce droit du travail n'est pas totalement ouvert, du moins dans ses compensations et l'accès à l'assurance de santé, si c'est pas nécessairement ouvert au visa vacances-travail, il y a des attentes de traiter les gens correctement. Effectivement, vous l'avez rappelé, dans certaines fermes, ce qui se produisait, c'est qu'on vous disait « oui, on a du travail pour vous, dans telle ferme, vous allez être super bien payé à, on va dire, 25 euros de l'heure, signé ici, et puis après, bon, bah, mais le logement, en fait, va être très cher, la nourriture va être chère, et tout ça vous est assuré par la ferme qui vous emploie. » Donc, en fait, c'est du travail pas tout à fait gratuit parce qu'il vous est rémunéré, mais l'argent que vous avez créé via le fruit de votre travail vous est repris par des façons détournées, fort peu élégantes et qui choquaient les gens. Mais comme ces personnes qui voulaient vraiment faire leurs 88 jours avaient besoin de ces 88 jours pour rester, ils se disaient bon, bah si le prix à payer c'est d'être exploité pendant 3 mois, mais qu'après je peux profiter du rêve australien, très bien. Donc en fait, certaines industries ont profité de la motivation réelle qu'avaient ces jeunes hein, qui viennent d'Argentine, d'Espagne, d'Indonésie, de France, de Suisse, de Suède, qui voulaient vraiment rester en Australie ou au moins passer une année de plus et se sont retrouvés dans des situations qui ont été dénoncées. Donc depuis, il y a quand même beaucoup plus de vigilance de la part des autorités. Alors je vous dis pas qu'il n'y a plus d'abus, hein. Il y a toujours des abus et il y en aura malheureusement probablement toujours. Mais de manière générale, c'est quelque chose qui est plus connu et dont les backpackers, vous voyez la connotation, et dont les jeunes qui ont ces visas sont aujourd'hui beaucoup plus au courant qu'ils ne l'étaient avant.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver dans quelques jours pour la troisième partie de ce sujet consacré à l'histoire du programme vacances-travail en Australie dans le prochain épisode. On s'intéressera au succès, à la popularité de ce visa vacances-travail auprès des jeunes du monde entier, mais en particulier auprès des jeunes français. Alors je vous dis à très vite.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Planning your future? You need a super fund that's truly helpful. Aware Super gets that. With Aussie-based call centres where real people understand your needs. Simple digital tools to manage your super anytime. And strong security features to help safeguard your account. With award-winning service, Aware Super help you get the retirement you deserve. Join Aware Super today. And as always, check the PDS on their website to see if it's right for you.